cette interview pour parler de cette tribune justement qui a fait parler d'elle dans Valeurs Actuelles la semaine dernière. Une tribune signée par plusieurs généraux militaires en retraite ou proches de la retraite en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cette tribune elle a autant fait parler ?
Alors tout d'abord, oui, une vingtaine de généraux à la retraite ainsi que certains militaires encore actifs ont lancé donc cette pétition, comme vous l'avez dit, dans cette revue Valeurs Actuelles, qui est plutôt proche de l'extrême droite. Et donc cette pétition a fait parler d'elle car elle était assez virulente et elle était une charge relativement forte contre le pouvoir politique. Et ce n'est pas forcément une nouveauté dans le cadre de cette revue Valeurs Actuelles, étant donné que la semaine précédente, Philippe de Villiers avait fait de même au sein de cette revue sur des thématiques relativement proches. Alors, cette pétition puise dans des références importantes pour l'extrême droite et prend la forme d'une mise en garde, notamment contre l'éventuel délitement de la société française, alors le mot éventuel est important, hein, avec le risque d'une guerre entre guillemets raciale et d'un effondrement de ses valeurs, donc de notre société. Alors le texte est lourd de sens, est aussi une menace à peine voilée autour d'un éventuel coup de force, donc c'est sous-entendu dans le texte, pas dit directement, mais quand on lit le texte, on voit quand même une charge assez violente sur ces thématiques-là, et donc on voit l'idée éventuelle que l'armée pourrait intervenir dans la gestion du pays et supplanter les civils, notamment dans la direction du pays.
Donc c'est ce qu'on appelle un coup d'État militaire finalement. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ce qu'est un coup d'État militaire pour ceux qui ne se souviendraient plus très bien de leur cours d'histoire?
Alors un coup d'État, ce serait peut-être excessif, c'est quand l'armée déjà serait aux manettes du pays, ce qui n'est pas le cas fort heureusement. On peut parler d'une tentative de putsch en particulier, et dans ce cadre-là, on est quand même loin de cette idée-là, mais je pense qu'il faudrait revenir sur la double symbolique de la date, notamment de la pétition en particulier, et qui fait penser à un éventuel putsch, notamment le putsch des généraux en Algérie, notamment par le fait que cette pétition est sortie un 21 avril. Et si le texte notamment a fait réagir la classe politique, c'est que voilà, elle attise une idée et notamment un souvenir douloureux d'une période pas si lointaine de notre histoire contemporaine, ce fameux 21 avril, qui est une date d'ailleurs à la double symbolique. Alors je peux revenir d'ailleurs sur cette tentative du putsch en Algérie en 61, quand quatre généraux à la retraite ont tenté de faire pression sur le général de Gaulle, président depuis 1958, pour interrompre le pourparlers d'une future paix en Algérie, et notamment suite au référendum sur l'autodétermination qui a été ratifié par 75% de la population au début de l'année 61. Et donc cette tentative de putsch, finalement, est rapidement tombée en miettes devant l'intransigeance du président, soutenue par une immense majorité de la population française qui en avait marre de cette guerre, et également le refus d'une majorité du contingent sur place, qui était composé d'appelés faisant leur service militaire, de suivre ces séditieux. Et donc, nous sommes voilà, face à une date de ce 21 avril, donc cette pétition forcément attise cette idée-là. Mais il est vrai que c'est quand même une mise en garde importante, le fait qu'une pétition signée par des militaires, dont quand même un certain nombre d'officiers menaçant indirectement le pouvoir politique, c'est quand même une menace à prendre en garde, dans le sens que dans le cadre du 21 avril 1961, ces séditieux qui n'ont pas réussi à faire le putsch ensuite sont partis dans une dérive terroriste. Il ne faut pas l'oublier que le terrorisme aussi, il y a un terrorisme d'extrême droite, notamment avec la fondation de l'OAS, qui a fait plus de 2000 morts à la suite de cette année 61 quand il a été créé. Et donc l'autre symbole également de cette date du 21 avril, ce qui a été assez étonnant car elle a été moins relevée par les médias actuels, c'est tout simplement le 21 avril 2002 également, quand l'extrême droite française a franchi le second tour de l'élection présidentielle, et le fait que l'auteur de la pétition qui se dénomme, alors c'est le capitaine Fabre Bernadac, qui n'est pas un inconnu notamment de l'extrême droite, étant donné que c'est un ancien membre du service d'ordre du Front National, ce qui explique peut-être pourquoi aussi certains leaders politiques, notamment Marine Le Pen, ont rejoint les signataires avec empressement en les soutenant.
Mais en fait, quand on est militaire ou militaire à la retraite, est-ce qu'on peut faire ça, exprimer son opinion politique de manière aussi claire et tranchée que le font les signataires de cette tribune?
Alors tout d'abord, il faut quand même ne pas oublier que l'armée est loin d'être la grande muette, comme on le sous-entend souvent, avec cette notion de droit de réserve, etc. Dans notre histoire proche, l'armée est souvent intervenue dans la gestion de notre pays. Depuis la Révolution française, c'est un acteur important qui va être lié à la République, mais pas que à la République, avec tous les régimes qui vont se succéder au XIXe siècle. N'oublions pas quand même que Napoléon, c'est un militaire et un homme politique. À la fin du XIXe siècle, on a eu le général Boulanger également, qui a monté un mouvement qu'on pourrait caractériser de populiste et qui a failli prendre le pouvoir. Et puis ensuite, le XXe siècle, hein, des militaires qui ne se sont jamais désintéressés de la fonction politique. On peut penser à Foch, on peut penser bien sûr au maréchal Pétain ou bien sûr à un de Gaulle. Donc l'armée est loin d'être insensible aux questions politiques, mais il est vrai que les militaires ont dans leur statut en particulier, comme les fonctionnaires civils, alors d'une manière abusive, on appelle cela un devoir de réserve. Et pourtant, le devoir de réserve, en fait, n'existe pas dans la législation actuelle. C'est-à-dire que chaque fonctionnaire ou personne dépendant directement de la fonction publique ont une limitation à leur liberté d'expression. Donc ça, c'est lié notamment à la loi du 13 juillet 1983 sur la fonction publique, qui reconnaît la liberté d'expression, mais cependant en indiquant une limite dans le sens qu'elle ne doit pas être excessive, elle ne doit pas être insultante envers sa hiérarchie ou les pouvoirs publics. Alors, pour le cas des militaires, une jurisprudence quand même s'est imposée progressivement. Elle est même liée aussi aux magistrats, et notamment dans le Code de la Défense, alors c'est l'article 4121-2, les militaires ont la liberté d'avoir des opinions, qu'ils soient politiques, religieuses, philosophiques, mais ne peuvent pas s'exprimer qu'en dehors de leur service, pardon, et avec une réserve exigée par l'État militaire. Alors c'est une notion qui est un peu floue, donc c'est pour ça que certains leaders politiques actuellement parlent de ce devoir de réserve, mais c'est pas exactement cela. Mais donc, dans le cadre des militaires, bien entendu, ce devoir de réserve s'appliquerait davantage sur des informations qui relèvent du secret professionnel. Et également, par contre, il y a bien une interdiction sur le fait qu'un militaire ne doit pas adhérer à un groupement ou à des associations de caractère politique, ce qui ne l'empêche pas notamment pourtant d'être candidat à des élections, donc il y a une ambiguïté là-dessus. Hein. Mais dans ce cadre-là, voilà, il y a une limite qui existe quand même dans cette expression de leurs opinions dans leurs fonctions, hein, c'est très clairement indiqué, hein, mais en dehors de leurs fonctions, ça serait tout à fait possible.
Mais pourquoi du coup cette tribune peut être sanctionnée, puisque visiblement, en fait, là, dans cette tribune, ils s'affichent pas oui. Auprès d'un parti politique, ils affichent simplement leurs opinions.
Alors justement, des sanctions peuvent être prises, notamment quand elles concernent des militaires qui expriment leurs opinions quand ils sont en service, donc les différentes sanctions vont du blâme jusqu'à la radiation. Ceux qui sont en deuxième section, c'est-à-dire qui ne sont plus en service actif, eux peuvent être rappelés et peuvent être aussi sanctionnés. Et par contre, pour ceux qui sont en retraite, il n'y a pas de sanction possible.
Et aujourd'hui, au collège, comment vous traitez ces sujets dont parle la tribune? C'est des sujets, on sait, hein, qui sont controversés en France, le racisme, l'antiracisme, les religions, la manière dont les religions doivent se montrer dans l'espace public, les théories décoloniales, etc. Est-ce que tout ça, ça a évolué, les manières de traiter l'histoire sur ces questions, est-ce qu'elle a évolué?
Alors, il y a toujours un socle dans l'enseignement de nos matières, de nos disciplines, qui est basé sur un programme donc de l'éducation nationale. Et le but est toujours de présenter une culture commune à nos élèves pour former de futurs citoyens autonomes et acteurs de leur vie, en quelque sorte. Et pour cela, ce socle, en fait, est basé sur les valeurs républicaines, qui sont vraiment le socle de notre enseignement, mais pas qu'en histoire-géo, hein, dans toutes les disciplines. Que cela soit dans la pédagogie, c'est-à-dire tout d'abord assurer l'égalité entre les élèves dans l'enseignement que l'on diffuse, pardon. Ensuite, aider les plus fragiles, développer l'entraide, le respect également entre les élèves. Donc là, on est bien sur le principe dit de fraternité. Et enfin, le troisième principe, le principe de liberté, s'acquiert dans nos programmes et dans nos enseignements par les questionnements et la création d'un esprit critique, notamment pour permettre de former ce futur citoyen. Donc aucun sujet n'est tabou dans notre enseignement, et par exemple ce type de document, cette pétition peut être utilisée dans le cadre d'un débat, notamment sur les valeurs des républiques, sur également comment des citoyens sont formés, quelles sont les limites également à un pouvoir militaire ou pas. Donc pourquoi pas un travail aussi sur les questions constitutionnelles. Donc ce type de document peut avoir tout à fait sa place dans le cadre d'un cours. Et bien entendu, notre enseignement demande toujours une approche qui doit tenir compte aussi parfois des sensibilités et des vécus de nos élèves, afin d'établir un cadre d'enseignement, mais sans renier nos valeurs, comme l'histoire récente nous le présente, notamment de notre pauvre collègue Samuel Paty, qui a défendu ces valeurs-là, et malheureusement, on voit que ces valeurs peuvent parfois poser problème. Mais il n'y a aucun sujet tabou, et c'est vrai qu'actuellement, on est face à une mise en avant, notamment de nouvelles thématiques, ou du moins avec une volonté de certaines minorités qui revendiquent leur part d'histoire, et peuvent, bien entendu, accentuées par les réseaux sociaux et par Internet, qui donnent une résonance notamment à ces thématiques de plus en plus fortes. Dans la pétition, on parle notamment de statues qui sont déboulonnées, d'anciennes gloires militaires qui sont atteintes, etc. Donc il y a une contestation d'une histoire présente, et on le voit notamment dans plusieurs pays du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit aussi en France notamment, avec le cas de plusieurs personnes ayant eu une double casquette. Alors il y a quelque temps, c'était Jules Ferry, le père de l'école républicaine, mais en même temps qui avait des idéaux coloniaux qui, de nos jours, bien entendu, posent problème. Et donc, dans le cadre d'un enseignement d'histoire, le but de l'histoire est de montrer aussi ces nuances, ces contextes aussi. C'est très important de contextualiser des propos qui ont été tenus à une époque ou des actes qui ont été commis à une époque, pardon, pour pouvoir mieux les comprendre, sans pour autant, alors l'histoire n'est pas un tribunal, hein, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais de le présenter. Et c'est pour cela qu'aucun élément n'est tabou dans notre enseignement, et au contraire, en présentant ces éléments-là, en les recontextualisant, on leur permet de leur rendre en quelque sorte une meilleure compréhension pour nos élèves.
Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Vernet. Vous êtes professeur d'histoire au collège Les Perrières.